Jeudi 3 octobre 2019 se tenait la journée d'études Les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui. État des lieux, perspectives de recherche. Cette journée d'études était organisée par le laboratoire ICD de l'Université de Tours. Un événement organisé par Vincent Cotreau, département de musique et musicologie, modéré par Hélène Morel-Indard.
La place des femmes, ou plutôt les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui. C'est peu dire que le sujet de cette journée rentre en résonance avec notre temps. En témoigne la présence ici d'étudiants, bien sûr, venus nourrir leur curiosité, mais également de professionnels de la musique, venus parfois de loin, pour y assister, ce dont je les remercie, sans les citer. En témoigne de cette actualité du sujet, en témoigne certaines collisions de dates, par exemple la restitution la semaine dernière au ministère de la Culture d'une étude nationale portant sur la représentation femmes-hommes dans le jazz et les musiques improvisées, portant sur les données de 2018, sur lesquelles je reviendrai rapidement tout à l'heure. Plus près de nous encore, jeudi dernier, était présentée au Petit Faucheux la saison qui s'ouvre. Le Petit Faucheux, soit dit sans chauvinisme, l'un des lieux phares de la diffusion du jazz et des musiques improvisées à l'échelle nationale et européenne, l'une des rares salles de jazz ou de musique dites actuelles à être dirigée par une femme, Françoise Dupin. La prochaine artiste associée en résidence au Petit Faucheux en 2021 sera la flûtiste Sylvaine Hélary. Voilà donc une collision, encore une fois, d'actualité. Résonance de cette journée avec notre temps si on observe également la recrudescence d'initiatives à forte visibilité, telles que la programmation des festivals de jazz. Festival de jazz comme Parfum de jazz dans la Drôme provençale, qui ne programme depuis l'année dernière que des groupes dirigés par des femmes. Citons encore les festivals Women in Jazz qui se multiplient, comme celui de Halle en Allemagne, qui proposera sa 15e édition en 2020, celui de Washington, de Göteborg, de Sydney, Melbourne, Knoxville, Seattle, etc. Dans la dernière livraison de Jazz Magazine, la programmation du prochain festival Jazz sur scène est intitulée « Vers la parité ?» Je cite, un signe des temps, la présence féminine ne cesse de s'accentuer avec cette année les trios vocales Bloom, les chanteuses Lou Tavano, Leila Martial, la violoniste Olive Perrusson, la flûtiste Ludivine Isambourg, la clarinettiste Elodie Pasquier, les pianistes Karine Bonnefoy, Leila Olivesi, les batteuses Lada Obradovic et Julie Sori. Résonance avec notre temps, encore l'engagement d'un festival comme le New York City Winter Jazz Fest à parvenir à l'égalité de genre d'ici 2022, ou encore la présence d'une femme depuis 2017 à la direction de l'un des plus anciens festivals allemands, le Berlin Jazz Fest. La liste pourrait s'allonger. Quelque chose est évidemment en train de changer, bien au-delà du microcosme du jazz. Impossible, évidemment, de ne pas voir une réalité et un ensemble de mutations apparaître dans les mentalités comme dans l'organisation sociale. Une réalité parfois difficile à vivre quand, par exemple, l'injonction de parité vient d'en haut et se heurte à des réalités comme, pour ma part, j'ai pu vivre deux exemples très récemment, à la fois pour mon remplacement à la présidence d'un concours national pour lequel je devais être remplacé par une professeure femme et la difficulté se posait en termes de vivier et de disponibilité d'un nombre de femmes réduit, ou encore la rareté criante des femmes au grade de professeur d'université qui entraîne de grosses difficultés parfois dans la constitution des jurys, et c'est un exemple aussi tout récent pour moi, notamment en ce qui concerne la recherche sur le jazz. Donc que personne ici ne se sente visé, mais ce problème est un problème d'actualité qui touche aussi les universitaires. Pour revenir à la place des femmes dans le jazz, si l'on continue de l'apercevoir en termes quantitatifs ou statistiques, les initiatives décrites précédemment et le constat que quelque chose change ne bouscule pas pour autant radicalement la réalité, prise dans son ensemble, et qui demeure bien une musique jouée, composée, dirigée, enregistrée et administrée, majoritairement par des hommes. Les résultats de l'étude citée plus haut, que j'ai notée au vol dans une nuée de chiffres, j'en donne quelques-uns, 85% d'hommes sur les scènes dans les programmes, proposés par l'association AGC, le collectif de 80 festivals, clubs et scènes labellisés, 32% des grands ensembles sur 47 au total ne comptent et n'ont jamais compté aucune femme. À cette inégalité s'ajoute une très forte et bien connue disparité entre chanteuses et instrumentistes, de même qu'une très inégale représentation des femmes selon l'instrument considéré. Dans les ensembles programmés par AJC, 83% des chanteurs sont des chanteuses, alors que 12% des instrumentistes sont des femmes. Des chiffres qui concernent ou qui entraînent beaucoup d'autres disparités ou situations d'inégalité moins visibles. Par exemple, les musiciennes de jazz sont plus nombreuses que les hommes à déclarer l'enseignement comme activité principale et enseignent principalement le chant dans les écoles, quand bien même elles déclarent une activité d'instrumentiste professionnel. Il semble que les chiffres qui ont été donnés la semaine dernière ne modifient que très peu, même si la méthodologie diffère, ceux présentés en 2007 par Marie Buscato sur la base de données de 2004. Le chiffre d'environ 8% de femmes au sein des quelques 2000 musiciens de jazz considérés alors comme professionnels descend à moins de 4% si on ne considère que les femmes instrumentistes. Donc, vous comprendrez bien que je ne puisse pas, ici, dans l'introduction, préciser ces données, ni les compléter d'un certain nombre d'autres indicateurs d'une situation générale d'inégalité en matière d'entrée, de maintien des femmes dans l'activité professionnelle, de vie de famille ou encore de répartition dans les structures de diffusion, équipes techniques, artistiques ou administratives. À ce stade, on peut affirmer, d'une part, que les choses changent, mais qu'elles changent peu, mais qu'elles changent malgré tout, voire par exemple la féminisation avérée de certains instruments, comme la contrebasse ou la guitare, et qu'au-delà de l'évidente médiatisation de la question, dans un contexte nourri d'événements, de scandales, de débats, de mesures, concernant tous les domaines de l'organisation sociale, le monde du jazz a au moins acquis une capacité à identifier et nommer les enjeux liés à la place des femmes, ainsi qu'à produire une réflexion et des propositions face à la question des inégalités de genre. La présence de Marie Buscato communiquera tout à l'heure, que je remercie pour l'intérêt qu'elle a porté à cette initiative, témoigne de l'ancrage sociologique profond de la question qui nous occupe aujourd'hui. Toutefois, d'une part, notre collègue est venue aujourd'hui évoquer une recherche éloignée du terrain français, qu'elle présentera tout à l'heure. D'autre part, cette journée d'études, comme l'indique son titre et comme ambitionne son programme, ne se limitera ni au domaine français, ni à la question de la sous-représentation des femmes. J'ai souhaité que se croisent les approches et les disciplines, principalement l'histoire, la sociologie et la musicologie, l'analyse textuelle également, l'historiographie, pour provoquer une réflexion qui articulerait l'étude de la situation minoritaire des femmes dans le jazz avec celle de leur mode de présence, mode d'action, mode d'organisation, mode de jeu, etc. Quelle relation peut-elle, doit-elle se tisser entre la domination historique de l'ensemble des circuits de production et de diffusion du jazz par les hommes et l'émergence de logiques esthétiques, je le mets entre guillemets, c'est tiré d'un entretien de Stéphane Olivier avec Marie Buscato, de logiques esthétiques possiblement différentes, sinon féminines. Plusieurs communications, Ludovic Florin, Marie Buscato et le concert conférence donné par Chloé Caïton et Léo Malbrook tout à l'heure, occasionneront des questionnements autour des mécanismes d'alternatives créatrices où pourraient se lire et s'entendre la part prise par les femmes dans cette musique d'hommes. Les études sur le genre représentent un axe à part entière du laboratoire organisateur de cette journée, ICD, Interaction culturelle et discursive, auquel nous sommes plusieurs musicologues du département de Tours à appartenir. Pour autant, en tant que musicologue du jazz, pour ma part, s'étant jusqu'ici consacré à des répertoires variés et presque exclusivement masculins, je dois bien l'avouer, dans une perspective à la fois historique et analytique, j'ai bien conscience d'effectuer un pas de côté vers un domaine, les études féministes, ou centrées sur la question du genre, domaine à l'histoire déjà longue et à l'échelle du temps présent en tout cas, aux assises théoriques fournies et aux champs d'application très régulièrement élargis, pour former un corpus d'études déjà conséquent. Donc je limite ici l'illustration de cette réalité avec un échantillon représentatif des recherches les plus récentes touchant à la place des femmes ou plus largement à la question du genre dans la littérature, la musique et les autres arts, produits au sein de laboratoires universitaires français, pas uniquement le laboratoire ICD, dans les 5 dernières années. Je me limite ici, sur ces 2 diapositives, à des initiatives de journées d'études ou colloques. Donc, de ces 5 dernières années, y compris dans quelques-uns des mois à venir, avec notamment les 3 dernières manifestations mentionnées ici, dont 2 se tiendront à Tours. Posons donc nos pas dans les traces ouvertes par les spécialistes de ces questions féministes et des questions de genre depuis plusieurs décennies pour ce qui concerne les femmes dans le jazz. J'ai ici reproduit un certain nombre de références incontournables sur ces questions et faisons dialoguer avec nos grandes oreilles, pour paraphraser le titre de l'article de Sherry Tucker que je suis en train de traduire pour la publication de cette journée. Posons donc non pas dans ces traces, faisons dialoguer avec nos grandes oreilles les sciences humaines, les sociales et la musicologie. En dépit du format modeste de cette journée, chacun des termes retenus dans son titre prendra son sens, je l'espère, loin de toute prétention à l'exhaustivité, à travers la variété des traitements qui seront proposés par les intervenants, parmi lesquels, très malheureusement, nous fait défaut Anne Legrand, qui a annulé sa participation et qui devrait me faire parvenir des éléments précis qui me permettraient de lire une partie et de présenter une partie de son propos. Place des femmes, même s'il est question ici des femmes dans le jazz, les femmes envisagées, les musiciennes, mais pas seulement. La question du genre sera envisagée au sens large dans l'historiographie de l'entre-deux-guerres par Martin Guerpin. Pierre Fargeton se penchera pour sa part sur la place d'une activiste de la cause du jazz dont l'activité de critique a été éclipsée par la notoriété d'un mari très encombrant. D'hier à aujourd'hui, deuxième terme de la journée, il y a bien sûr un souhait d'ouverture chronologique qui viendra renforcer le croisement des disciplines et viendra épaissir la recherche des perspectives ouvertes par les contributions les plus tournées vers l'actualité, voire le devenir de la question. Tel est l'état des lieux qui vous est proposé aujourd'hui et qui sera modéré dans sa partie matinale par notre collègue professeur de littérature et membre du CD, Hélène Morel-Indard, que je remercie chaleureusement pour sa disponibilité. Au moment de l'invitation que je lui ai adressée, je ne connaissais pas je n'avais pas en tête la parution imminente de l'ouvrage qui vient de sortir sous sa direction, Femme artiste et écrivaine à l'ombre des grands hommes.
C'est le hasard.
Sans quoi je ne l'aurais pas simplement sollicité, je l'aurais supplié d'être parmi nous ce matin. Je voudrais terminer avec quelques remerciements indispensables. D'abord aux intervenants pour leur disponibilité, la richesse des propositions et les conseils parfois reçus dans la préparation de cette rencontre. Remercier le service culturel de l'université pour le soutien financier qu'il apporte à cette manifestation à travers la convention DRAC Centre Université, notamment pour permettre la tenue d'un concert-conférence qui aura lieu tout à l'heure à 15h30. Le laboratoire ICD, bien sûr, pour à travers sa directrice Elisabeth Gavoil et tout particulièrement Isabelle Cochet-Pémira, la secrétaire du laboratoire qui a pris en charge la logistique de cette journée. Isabelle Cochet, formidablement dévouée et efficace. Gilles Horry, notre technicien, logisticien, qui déploie les mêmes qualités avec une constance admirable. Et l'UFR, Arts Sciences Humaines, qui nous soutient de façon générale pour la musicologie, d'un point de vue pédagogique, comme au plan de la recherche, notamment dans la défense acharnée de notre potentiel humain, de nos enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique et administratif, fortement mis en danger par les restrictions en vigueur. Tout cela au service de nos étudiantes et de nos étudiants. Bon, merci enfin à Anthony Benito, notre étudiant de master, qui a donné un précieux coup de main pour la mise en place de cette matinée.
Pierre Fargeton, Université de Lyon, Jean Monnet. Madeleine Gauthier, une intermédiaire oubliée du jazz en France.
Pierre Fargeton s'installe tranquillement. Alors, vous allez... Nous présentez-vous une intermédiaire oubliée du jazz en France, donc une femme, Madeleine Gauthier. Et vous venez, Pierre Fargeton, de l'Université de Lyon, Université Jean Monnet. Vous êtes maître de conférence, habilité à diriger des recherches. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La modernité chez Django, l'influence du bebop sur le langage de Django Reinhardt, 1947-1953 ». L'ouvrage est paru en 2005, et un autre ouvrage, donc André Oder, vous pourriez peut-être corriger ma prononciation, pour l'instant tout va bien, Le jazz et son double, c'est tout récent puisque ça date de 2017. Et je voudrais souligner que ces travaux ont été récompensés par le prix du livre de jazz en 2017 de l'Académie du jazz. Donc nous sommes très, très honorés de votre présence ici aujourd'hui.
Voilà. Bonjour à tous et à tous. Alors, j'ai entendu l'appel de Vincent Cotreau d'une façon moins problématisée, c'est-à-dire que je ne vais pas aborder la question... sous l'angle du problème du genre, parce que je ne me sens pas outillé pour ça, même si je m'y intéresse évidemment beaucoup. J'ai répondu à l'appel tout simplement en essayant de ressusciter une femme que généralement plus personne ne connaît, à part ceux qui s'occupent de périodes reculées et de façon très spécialisée, comme Martin par exemple, évidemment. Et quand je parle de reconstitution, c'est que c'est vraiment une reconstitution parce que tout ce qui touche à l'environnement du Panassier, le mari de Madame Gauthier, est souvent sous haute surveillance, et donc obtenir des informations à peu près fiables sur Madame Gauthier est toujours une gageure. Donc Madame Gauthier, c'est une femme passée complètement dans les oubliettes de l'historiographie, elle est nulle part dans les dictionnaires en général. Et elle est recouverte par l'ombre grandiose et hégémonique de la notoriété de Duc Panassier. Pourtant, Mad, comme l'appelait la plupart de ses proches, a joué un rôle non négligeable au-delà de sa collaboration avec Panassier, dans l'aventure de la revue Jazzot, par exemple, et peut-être dans la reformulation des conceptions de Panassier sur le jazz, avec une plume souvent originale, même si elle verse fréquemment dans l'acrimonie. Madeleine Gauthier est fréquemment évoquée dans les correspondances privées de Panassier, où on voit qu'elle est souvent très estimée des musiciens avec qui Panassier correspond. Elle l'est moins souvent publiquement. Il y a une exception notable qui est celle de Mesmero, dans sa préface à un livre de Panassier. Il y a quelqu'un d'autre qui ne ménage pas ses veilles pour vous aider à mieux comprendre et goûter les plaisirs de notre musique, quelqu'un dont on ne parle guère, une femme qui a été la collaboratrice étonnante et fidèle de Hugues, je veux dire Madeleine Gauthier, etc. Le compliment est d'envergure car il la présente à juste titre comme une intermédiaire légitime du monde du jazz qui travaille à aider à mieux comprendre et goûter le jazz. Mais la portée de ce compliment est évidemment limitée, comme vous le constatez vous-même, pas seulement parce que le compliment ne peut s'empêcher de porter sur son charme, la créature de ce sexe, etc., le plus admirable, la plus admirable, mais aussi parce qu'elle reste, même dans les compliments de Mesro, la collaboratrice étonnante et fidèle de Hugues. Alors le diagnostic n'est pas totalement faux, mais je voudrais essayer quand même, avec le peu d'informations qu'on a sur elle, de reconsidérer le rôle de Madeleine Gauthier dans le discours sur le jazz, dans le milieu du jazz et dans la vie de Panassier, parce qu'elle a sans doute été un peu plus que la collaboratrice fidèle. Alors quelques éléments de biographie, parce qu'on connaît à peu près rien d'elle. Elle est née en 1905 et décédée en 1983 dans la banlieue de Montauban. J'ai absolument rien retrouvé de ses origines ni de celles de ses parents, Louis Gauthier et Suzanne Legrand, mais cette dernière, qu'on surnommait Mina, tenait dans les années 20 et 30 une pension de famille à Paris, rue Berthollet, la pension Port-Royal. Et cette pension est la résidence parisienne du Panassier à partir du décès de son père, fin 1928. C'est donc là, dans cette pension de famille, que le jeune Hugues, d'à peine 18 ans, s'éprend de la fille de sa logeuse, Madeleine. Sans doute peu après que ses parents aient engagé pour lui, qui entre-temps était devenu infirme suite à une poliomyélite, ses parents avaient engagé une fille de 10 ans, son aînée, qui devait lui servir d'aide infirmière et de préceptrice et qui allait devenir sa femme, qui s'appelait Lucienne Level. Donc Madeleine n'est en rien parachutée dans la vie de Panassier. Elle est présente dès le début de sa vocation de critique de jazz. Et bien sûr, au début, on ne connaît pas la nature exacte de la relation entre Hugues et Madeleine, puisque Panassier, à ce moment-là, au début des années 30, est d'abord jeune fiancé avec Lucienne Lével en 1932, jeune marié en 1933, puis s'installe en Aveyron, dans le fameux château de Gironde, près de Villefranche-de-Rouergue, où le ménage entre Hugues et Lucienne mène à la fois grand train et vie de bohème. Donc, Hugues est jeune marié avec Lucienne, mais parallèlement, on sait qu'il a une relation secrète avec Madeleine. Les premières traces d'officialisation de l'existence de Madeleine Gauthier nous sont, dans la vie de Panassier, hein, j'entends, nous sont données par la correspondance de Panassier avec Pierre Noury, qui est le factotum de Panassier pour toutes les affaires du Club de France. Et ces premières traces, elles datent de la fin 1934, au moment de la parution du premier livre de Panassier, Le Jazzot. D'abord, le 15 décembre 1934, dans une lettre, Panassier a la formule « J'apprends par une lettre de Madeleine Gauthier ». C'est la première fois que son nom surgit. Et surtout le 28 décembre, où Panassier sort littéralement de son chapeau une collaboratrice dont Pierre Noury n'a visiblement jamais entendu parler. Il la prévient, voilà, soyez pas étonnés, c'est Madeleine Gauthier à qui j'ai confié le soin de certaines commissions éventuelles auprès d'un certain nombre de musiciens parisiens. C'est sa première apparition officielle. La même correspondance entre Panassier et Noury nous apprend que Madeleine Gauthier séjourne au château de Gironde, en Aveyron, de juillet à octobre 1935, alors que le ménage Panassier-Lével, Hugues Lucienne, et leur premier enfant Louis, né en 1934, attendent l'arrivée de jumeaux pour le printemps suivant. Alors c'est assez surprenant, on se demande à quel titre Madeleine séjourne 4 mois sous le toit des jeunes époux qui attendent des jumeaux. Sans doute la raison invoquée de ce séjour de Madeleine Gauthier est-elle professionnelle, car depuis la fondation de la revue Jazzot en mars 1935, le nom Madeleine Gauthier est apparu dès le numéro 2, ici avec une recension de concert, et il est probable qu'elle assiste en effet Hugues dans son travail de direction de la revue, notamment dans sa relation épistolaire avec les nombreux correspondants anglophones de Jazzot, puisqu'à ce moment-là la revue est bilingue. Les sentiments sont pourtant de la partie, puisque le retour de Madeleine Gauthier à Paris fin 1935 ouvre la voie à un véritable psychodrame. Lettre enflammée d'Hugues à Madeleine, chantage affectif du mari sur son amante, chantage au suicide s'il ne la rejoint pas prestement à Gironde, chantage sur sa femme qu'il supplie d'accepter Madeleine à l'intérieur du couple, drame familial du côté Panassier, drame du côté Gauthier. Et finalement, enlèvement de Madeleine en cachette le 30 mars à la pension Port-Royal. Enlèvement que Hugues annonce avec une joie perverse à sa femme, laquelle est à 4 jours d'accoucher. Les amants arrivent à Gironde le 1er avril. Les jumeaux Thérèse et Henri naissent le 4 avril. Et c'est Madeleine Gauthier elle-même qui fait en mairie la déclaration de naissance des enfants de la femme de son amant, comme j'ai pu le découvrir assez stupéfait. Dans les registres d'état civil de la mairie de Saint-Partin, dont le château de Gironde, enfin, qui est dans la circonscription. Quoique le ménage Hugues Lucienne tente de sauver les apparences vis-à-vis du monde extérieur, la situation est, comme vous vous en doutez, explosive et malsaine au château, et sans surprise, le ménage Panassier-Lével éclate et tourne au conflit. Hugues et Madeleine quittent Gironde sans doute au printemps 1937 pour Paris, où Panassier aura une année professionnellement bien remplie, notamment parce qu'il supervise des séances d'enregistrement pour les disques swing qui viennent de naître, et qu'il a cofondé avec Charles Delaunay. À l'été 1938, le couple projette de prendre le large pour un voyage au long cours aux États-Unis, qui aura lieu d'octobre 1938 à février 1939, et qui donnera à Panassier la matière d'un récit titré « 5 mois à New York ». Madeleine Gauthier, pendant ce séjour, se lie d'amitié avec le clarinettiste Mes Mesereau, dont elle co-traduira en 1950 la fameuse autographie « Really the Blues », en français « La rage de vivre », avec Marcel Duhamel. Panassier, lui, dans le même temps, a pris la décision de divorcer et de mettre en vente le château de Gironde où vivent sa femme et ses enfants. Le couple vit dès lors de façon assez instable entre séjour parisien chez la famille ou chez les amis, visite en Aveyron et passage de plus en plus fréquent à Montauban, où Hugues et Madeleine comptent de nombreux amis, dont un très cher en la personne du poète et batteur Georges dit Jo Herman, dont je vais reparler assez fréquemment. À l'été 1939, on retrouve le couple louant un appartement au nom de Jo Herman, rue du Greffe à Montauban. Et lorsque Herman est réquisitionné pour partir à la guerre, ils échangent leur appartement contre la maison de campagne du père de Jo Herman dans la campagne de Montauban. Ce dernier finit par les expulser et ils emménagent alors dans l'appartement loué avant-guerre par Jo Herman et un autre ami, au-dessus de l'Express Bar, rue de la Comédie, à Montauban. Lorsque Jo s'évade en septembre 1941, Hugues et Madeleine doivent penser à une solution de relogement. Ce sera enfin la fameuse adresse connue de tous les amateurs de jazz, de 65, Faubourg du Moustier, à Montauban, où le couple achète une maison. Le couple emménage le 20 avril 1942, et le 5 mai, Madeleine donne naissance à Étienne, fils présumé d'Hugues et Madeleine, même si Hugues Panassier ne le reconnaît pas pour des raisons sans doute stratégico-juridiques, puisqu'il est en pleine histoire de divorce, et il n'a pas trop intérêt à montrer qu'il a eu un enfant par ailleurs, tout en étant marié. Ce sera donc ce 65 Faubourg du Moustier, ce sera la demeure du couple Panassier-Gautier jusqu'à la mort de l'un comme de l'autre, avec une toute petite période d'éloignement en 1948, où le couple s'installe à Fontainebleau, dans un hôtel somptueux, l'Hôtel du Tambour, avec la mère de Madeleine, pour tenter de renouer un peu avec le milieu parisien. Un séjour à Fontainebleau qui tournera assez court parce que les finances s'assèchent durement. Et donc, avant de réintégrer le Faubourg du Moustier, le couple s'offre un bol d'air et accomplit son second voyage aux États-Unis de février à mai 1949, au cours d'un périple entre New York, la Nouvelle-Orléans et la côte ouest. Et pendant ce périple, Madeleine contracte un faux mariage avec Hugues le 11 mars à Las Vegas, sur l'idée soudaine de Louis Armstrong et Velma Middleton, qui sont les témoins de ce mariage un peu express. Alors Panassier les a racontés, je ne vous le lis pas, mais vous pouvez le, si vous arrivez à voir, en savourer quelques fragments. Panassier les a racontés dans son journal intime, un des rares extraits de journal intime que son fils a bien voulu publier sur Internet. Et bon, qu'il raconte évidemment sous les traits d'un autre, parce qu'il ne peut pas dire en son nom propre, catholique, sourcilieux comme il est, il ne peut pas dire qu'il a contracté un autre mariage alors qu'il n'est même pas divorcé. Ce mariage ne sera transcrit dans le droit français qu'après la mort de Hugues, en 74, donc en 75, protégeant in extremis Madeleine d'une forme de spoliation de l'héritage de celui qui fut quand même l'homme de sa vie. Je veux dire, concrètement, sans la traduction de ce mariage dans le droit français, elle n'existait absolument pas dans l'héritage Panassier et rien ne lui appartenait plus. Donc, quelque part, ça l'a un petit peu protégé. Voilà pour ce qu'on sait de sa biographie. Donc, c'est un petit peu maigre, mais c'est déjà ça. En dehors de son intérêt pour le jazz, il semble que Madeleine Gautier soit attirée très tôt par la poésie. Il n'est pas impossible même que ce soit elle qui ait introduit Panassier à la poésie de Pierre Reverdy. Il est aussi possible que ce soit Madeleine qui rencontre la première, le fameux Jo Herman, puisqu'on sait que Jo Herman a lui aussi vécu à la pension Port-Royal à Paris lorsqu'il était plus ou moins étudiant. Assurément, en tout cas, c'est elle qui pousse Panassier vers le monde littéraire auquel elle-même aspire comme poétesse. Alors voilà quelques noms qui sont des intimes du cercle de Panassier. Georges Herman, Jean Malrieux, Max Jacob, Pierre Reverdy, Blaise Sandrard, Jacques-Henri Lévesque, Jean Van Eckeren. Ce sont les noms de la petite bande que Madeleine et Hugues courtisent dans la deuxième moitié des années 30. Des noms qui apparaissent aussi dans tous les jazzotes de l'avant-guerre. Lévesque et Van Eckeren, qui sont parrainés par Sandrars et Picabia, dont ils sont respectivement les intimes, sont les fondateurs de la revue surréaliste dissidente Orbe, qui a ouvert aussitôt que 1932 ses colonnes à Panassier, et dans laquelle l'évêque a chanté obséquieusement les louanges de Panassier à plusieurs reprises, comme par exemple en 1935. Madeleine semble avoir profité de cet environnement à la fois pour pousser Hugues à établir des ponts entre jazz et poésie, et pour se révéler elle-même comme poétesse. Ses avis sur ce petit monde littéraire sont assez tranchés, et sa plume est peu banale. Dans la seule lettre que j'ai pu retrouver à ce jour entre Madeleine et Jean Van Eckeren, écrite pendant le séjour catastrophique de Max Jacob au château de Gironde, alors ça c'est un document que je présente pour la première fois, je l'ai trouvé il y a très peu de temps, par le fils de Madame Gauthier, et ça donne un peu le ton de la plume quand même vraiment peu commune de Madeleine Gauthier. Ce qui est drôle, c'est ses commentaires surtout sur Max Jacob. Il ne voit rien, ses yeux se promènent sur ce qu'il imagine, mais jamais ne s'arrête ni sur les êtres, ni sur les belles choses vivantes qui nous apprendraient tant et tant. C'est une vieille noix vive dont la coquille rayonne, mais chute surtout. Il m'a dit qu'on devrait toujours écrire pour sa concierge, et je suis sûr que cette concierge s'endormirait en lisant ses livres. C'est un vieux birbe, une vieille barbe barbelée, et il m'embête autant que je l'horripile, ce qui n'est pas peu dire. Elle lui écrit encore le soir même, les deux lettres dans le même paquet. Max Jacob n'est pas si ennuyeux pour tout le monde, et s'il m'agace, c'est sans doute tant pis pour moi. Il est toujours sincère, cet homme, mais prend pour argent comptant d'affreuses conventions qu'il rend apparemment artificielles. Il est aussi très bon au fond, mais plein de remords et d'impureté. Il a le goût inné de plaire et flatte les gens dans ce qui peut attirer leur sympathie. Après, ça le dégoûte. Quelle salade, hein ! Et comme il est flottant et comme il est accessible au coup de pied dans le derrière, il vit le cœur et le derrière tendu. Bon, c'est assez. C'est pas commun quand même, comme façon d'écrire. On sent que c'est une femme qui aime écrire, quoi. Voilà pour ce document un petit peu rare, dans lequel on découvre en tout cas le ton de Madeleine Gauthier. Donc, humour souvent sardonique, fantaisie un brin surréaliste, et puis enthousiasme communicatif. Même si Jazot publiera sans doute par stratégie publicitaire un poème de Max Jacob dans le Jazot de Noël 1936, Madeleine, on le voit bien, trouve Max Jacob insignifiant. Il faut dire qu'elle a l'admiration exigeante et elle n'est pas aveuglée par la notoriété de ceux qui ont déjà un nom dans le monde des lettres. Deux ans plus tard, ce n'est plus Max Jacob mais Blaise Sandrars et Jacques-Henri Lévesque qui en prennent pour leur grade dans les pages du journal intime de Madeleine, les rares auxquels son fils m'a donné accès. Sandrars donne l'impression d'une telle force qu'il bâcle ses livres, mais pas si bien qu'il pourrait, car il déborde quelquefois d'épithètes inutiles. Impossible de parler de cela avec Jacques-Henri Lévesque, qui non seulement avale Sandrars, mais s'anéantit devant lui. Donc l'influence est mauvaise, car une influence qui annihile est stérile. Il n'y a pas un être humain qui mérite d'être adulé à ce point et de cette manière, car le fait même qu'un être humain supporte et admette une telle attitude prouve sa faiblesse. Max Jacob, Blaise Sandrars, Jacques-Henri Lévesque, d'autres encore, sont en somme, pour elle, de faux amis. C'est dans le petit groupe de poètes qui se pressait autour de Max Jacob à Gironde en octobre 1936, le vrai poète n'est pas Jacob, mais son rival du moment, Reverdy. Reverdy que la petite bande accueille enfin au château de Gironde en janvier 1937. Voilà une lettre du Panassier qui raconte le séjour de Pierre Reverdy qui vient de passer 8 jours à Gironde. Georges Hermand, Madeleine Gauthier et moi passions des journées entières à l'écouter parler. Quel homme, il peut vous parler pendant des heures sans prononcer une seule phrase banale, et il vous empoigne. On sortait de ces séances brisées comme si on nous avait tapé sur le crâne. À un moment donné, il a dit « Je n'ai pas réussi, mais mon ambition était telle que j'aurais voulu être le poète. » D'une façon si émouvante qu'aucun de nous n'a pu surmonter son bouleversement et lui dire « Mais vous l'êtes !» On sait aussi que Madeleine a fait lire au maître, Reverdy, les poèmes dont elle parlait à Van Eckeren dans la lettre que je vous ai montrée tout à l'heure, ce qui permet à Panassier de poser en découvreur d'avant-garde. Il raconte à Nourri, Pierre Reverdy a beaucoup aimé les poèmes de Georges et de Madeleine, ce qui m'a fait un plaisir que vous pouvez imaginer. Tout de même, je suis encore tout étonné d'avoir su découvrir si bien deux des plus grands poètes de la nouvelle génération. Voilà. Bon, plus personne ne se souvient ni de Georges Armand ni de Madeleine Gauthier. Hein. Donc il a anticipé un peu rapidement la notoriété de ces deux poètes qu'il avait si bien su découvrir. Madeleine profite en tout cas du vent favorable, de cette espèce de parrainage symbolique de Reverdy, puisqu'elle est, elle est vraisemblablement la cheville ouvrière d'un événement unique en son genre au printemps 1937, une exposition concert-événement au bar La Cachette, co-organisée par la revue Orbe et le Hot Club de France. Panassier, Herman et Gauthier figurent à côté de Lévesque et Van Eckeren, mais aussi Sandrars, Picabia, Marcel Duchamp ou Sonia Delaunay, dans une ambiance surréaliste dadaïste que le vernissage dévoile au son de la fine fleur du jazz parisien du temps, Philippe Brun, Lex Combelle, Pierre Fouad, Stéphane Grappelli, etc. Bien évidemment, c'est Madeleine Gauthier qui se charge du compte-rendu dans Jazz Out, quelques jours après l'exposition où elle raconte ce qu'on a pu voir. Quant au manuscrit de Madeleine Gauthier, qui était annoncé sur le carton d'invitation, c'est sans doute ceux des poèmes de son premier recueil, Les Patiences du Ciel, publié dans la prestigieuse collection José Corti, peu de temps après cette exposition. Un recueil dont Jo Herman tressera les louanges en septembre dans Jazzot, et dont la plupart des dédicaces marquent la volonté d'associer le milieu hors Reverdy au Jazzot. Voilà, j'ai recensé dans Les Patiences du Ciel les dédicaces de chaque poème, et vous voyez qu'on est sans arrêt en train de naviguer entre le milieu de la poésie et de Orbe, Pierre Reverdy, Jacques-Henri Lévesque, Georges Herman, et puis les musiciens de jazz. Alors j'en viens à ce que j'ai appelé le mystère du hot. Madeleine Gauthier est la première à concrétiser ce lien symbolique entre ce que la petite bande panassienne de Gironde voit comme une même expression d'un art vivant, la poésie reverdienne et le jazzot. Panassier emboîtera le pas fin 1937 en emmenant Reverdy au studio pour déclamer un poème accompagné par Philippe Brun et Joseph Reinhardt, et Herman fermera le bal des honneurs en obtenant une préface du maître Reverdy à son premier recueil Déluge en 1938 chez José Corti aussi. Mais c'est bien Madeleine qui a tendu le premier pont entre les deux univers. C'est aussi Madeleine qui fait entrer dans les colonnes de Jazzot un ton absolument nouveau, consistant à faire du hot, comme on dit à partir de ce moment-là, un art de vivre. Cette sorte de philosophie du bonheur simple et pur qui inspirera bientôt des articles enflammés à Jo Herman, c'est bien Madeleine Gauthier qui en inaugure les grands thèmes en 1936 dans la revue Jazzot. Dans cet art poétique, l'horizon n'est plus tant la beauté que la vie, et la vie tient lieu de méthode poétique supplantant toutes règles de l'art. Comme il se doit dans l'esprit profondément catholique de son auteur, la tirade commence par un mystère. C'est extrait de son article fondateur de mai 36 dans Jazzot. La vie est un mystère qu'on vit sans trop comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut vivre. Et alors on voit comme c'est passionnant. L'improvisation collective, qui est de la vie, dérive du même principe qu'elle. Elle ne supporte pas les raisonnements objectifs. Sortez, prenez l'air et vous sentirez la vie couler tout autour de vous et en vous. Sautez par-dessus le grand mur des préjugés et la vie est là derrière, palpitante et merveilleuse. Les musiciens hot ont sauté sans s'en apercevoir parce que ce sont des poètes, parce qu'ils avaient quelque chose à dire qui était plus fort qu'eux. Donc la vie surgit à toutes les lignes, mais le primitivisme aussi. À l'instar du noir, faut-il comprendre, le poète est celui qui fait, sans s'en apercevoir, et ce que font poète et musicien hot n'est que la restitution de quelque chose qui les dépasse. Avec quelques réminiscences de Cocteau, Madeleine Gauthier enfonce le clou en présentant le jazz comme une autre musique débarrassée de tout ce qui encombre la grande, écrite, bourgeoise, sentimentale, sacralisée, réifiée, patrimonialisée. Le jazz est tout l'inverse. Il faut donner le coup nécessaire pour défoncer tout ce qui cache la vie magnifique et diverse. Il faut que la vie absorbe les êtres sans qu'ils essayent de la retenir toujours, de la mettre en conserve, de la réduire en petits comprimés faciles à digérer. On perd peu à peu toute force et on meurt sans s'en apercevoir. La musique de jazz est solide et forte, il faut simplement débarrasser la musique de tout ce qu'on l'a affublé de trémolo et de tête dans la main et rêve, genre clair de lune et de tous les pièges pour personnes sensibles. Puis dans une rhétorique chère à Panassier, l'auteur distingue le vrai du faux, les élus des damnés, les voyants des aveugles, vis-à-vis d'une réalité, celle que l'évêque appellera plus tard la vie haute, qui ne peut, une réalité qui ne peut jamais être saisie autrement que par une révélation, et certainement pas par une volonté ou une intention. Voilà ce qu'elle dit. Chacun découvre la réalité à son tour, et a bien du mal à y croire quand elle lui saute aux yeux. On lui avait tellement encombré l'esprit de choses encombrantes, au lieu de le rendre assez fort pour marcher tout seul, que devant la vie, il ne voyait pas à cause de l'encombrement qui lui bouchait la vue. Il y a ceux qui marchent les premiers et qui voient, et qui savent, et qui sont dans la réalité, et puis il y a les suivants qui marchent derrière sans trop se rendre compte, et puis il y a ceux qui ne marchent pas, qui ne marcheront jamais. Il y a les vrais, les faux, les élus, les damnés, etc. À partir de là, hot, le terme hot, va devenir le sésame qui ouvre à cette vie haute. Il se lexicalise comme se lexicalisait encore quelques années plus tôt le terme « dada » sous la plume de l'ami Jean Van Eckeren. Avec Madeleine Gauthier, « Hot » devient le nom d'un étendard qui dépasse de très loin la musique à laquelle Panassier l'avait jusqu'ici cantonné dans le jazz hot. Sur la fin des années 30, il faut bien dire que les contributions de Madeleine Gauthier se raréfient sans que j'aie pu trouver une véritable explication à cette raréfaction de ses textes. Bien sûr, notre regard rétrospectif est attiré par l'hypothèse d'une vocation étouffée dans un processus classique de domination masculine, mais rien ne l'atteste formellement à cette époque-là, en tout cas. Elle entre au comité de rédaction de Jazzot en septembre 1938 et accomplit sans doute beaucoup de tâches éditoriales, utilitaires. La période de guerre arrive sur ses entrefaits. On a vu l'errance montalbanaise du couple qui va de domicile en domicile tout à l'heure. Vient aussi la grossesse et la naissance d'Étienne. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la raréfaction de ses écrits. La guerre finie, son nom refait surface dans la revue Présence africaine, où elle publie deux comptes rendus, l'un sur le romancier Richard Wright et l'autre sur un concert de Rex Stewart. C'est aussi l'époque du second voyage américain, celui du mariage à Las Vegas. Et puis, son nom refait surface de façon vraiment copieuse à l'occasion de la fondation d'une nouvelle revue en 1949 qui s'appelle La Revue du Jazz. Madeleine, il est essentiellement critique de disques. Et je voudrais parcourir un peu, j'ai encore le temps, où je...
Un petit peu,
Ok,
voilà,
c'est très bien.
Lui, qu'on ait le temps de...
Pour vous faire un petit peu du ton, pareil, un petit peu hors du commun de Madeleine, critique de disque. Hein. Donc ça déménage un peu, mais son ton, c'est souvent l'humour fantaisiste et grinçant qui sert de véhicule à ses condamnations ou à ses détestations. C'est un humour qui se souvient par exemple de l'absurde corrosif à la Satie, qu'elle aimait beaucoup, lorsqu'elle parle au sujet d'un disque de James Moody, de la coda en forme de képi. C'est un humour qui n'est pas sans faire penser parfois à celui de Borisien, pourtant ennemi juré du camp opposé des pro-bebop. Lorsqu'elle écrit d'un thème en deux parties de Kenny Dorham, avec Max Roach, les deux Tomorrow ne sont hélas qu'un lendemain, le trompette fatigué a dû vouloir composer un ballet pour Camembert bien avancé. Les images d'horreur ou de dégoût tombent facilement dans l'hyperbole quand on aborde, au-delà du bop lui-même, la musique progressive, comme on l'appelle à l'époque, type Stan Kenton. Une composition de Pete Rigolo pour le métronome All Stars lui paraît une vue de l'enfer musical dans un tableau de Jérôme Bosch, et elle précise « Métronome Riff est une visite officielle à un asile d'aliénés. À part les solistes qui décomposent les accords de base et se décomposent eux-mêmes, le jeu de la basse rappelle les abattoirs de Chicago, et l'accord final, c'est le cri conjugué des 300 000 cochons qu'on y tue par jour. » Ces pointes sont plus acérées encore lorsque c'est l'ennemi juré André Oder qui joue et qui commet en l'occurrence l'un des premiers disques bop français avec Kenny Clarke. Alors ce disque n'est certes pas un sommet de l'histoire du jazz, mais Madeleine n'entend qu'un crin-crin lymphatique dans Lorenzology et conclut, non sans humour, sur Lorenzology, on peut arrêter le disque après le solo de saxo, Ology Lorenzo. Si Claude Laurence, le pseudonyme d'André Oder, est jugé piètre jazzman, André Oder est, par une parenthèse aussi drôle qu'assassine, rendu plus inexistant encore que Claude Laurence. Algérien Cynicism est une complainte solo de violon par Laurence, moins connue sous le nom d'André Oder. Pourtant, Madeleine Gauthier n'est pas par principe réfractaire au bebop, comme Panassier d'ailleurs. Pour commencer, elle n'est pas du tout, comme on pourrait l'imaginer, la passéiste confite dans le Dixieland qui adouberait aveuglément le premier revival venu. Voici par exemple comment elle se gausse d'un All-Star avec Baby Dolls et Pops Foster, qui sont pourtant deux de ses idoles. Un All-Star qui reprend pour le disque quelques tubes du Hot Five de Louis Armstrong à la fin des années 20. Le tout fait aussi vieux jeu qu'une boule de verre dans le jardin d'un charcutier retiré des affaires, qu'une dame en culotte bouffante pédalant sur une grande route coiffée d'un panama et d'un voile gris poussière, bien droite sur son vélocipède. On pourrait utiliser ces faces pour sonoriser une rétrospective. Bon, je suis allé les écouter, pourtant, elles ne sont pas si vieillottes que ça. Hein. Donc, elle a la dent dure. Elle ne condamne pas d'avance les nouvelles formes de jazz qui éclosent après-guerre. Tout montre qu'elle ne demande qu'à être convaincue dans un effort d'écoute visiblement sincère et réel. À l'audition de Hot House et Salt Peanuts, elle note par exemple, Parker y circonvole allègrement, ce qu'il a à dire est très personnel et l'on profite bien plus de sa musique en disque qu'à l'audition Playel. Chez Dizzy Gillespie, elle entend bien le créateur original et elle reconnaît des mérites à son big band. Gillespie aura-t-il la carrure suffisante pour venir à bout de ce qu'il a à dire, écrit-elle. Il a du tempérament, de l'originalité, une maîtrise indiscutable et sait faire parler son propre langage à son orchestre. Seulement l'espoir d'être séduite est systématiquement douché par une sensation de complication qui est pour Madeleine Gauthier le péché capital du jazzman. Comme elle n'a pas de mot adéquat pour décrire ce qu'elle déplore en termes musicaux, parce qu'elle n'est pas musicienne elle-même, c'est l'humour absurde qui prend le relais. Donc toujours sur Dizzy, il lui manque cette chic note qui fait les génies, cet équilibre, même dans le monstrueux, qui force l'admiration, sinon l'amour. Prenez son solo, cet enthousiasmant, et puis brusquement, le voilà qui se met à vous tortiller une phrase à faire fuir un diplodocus. Le problème aux yeux de Madeleine Gauthier, c'est quand la musique appelle, selon elle, l'analyse. Le Round Midnight de Dizzy Gillespie en grand orchestre, avec sa fameuse introduction, dont elle ignore probablement qu'elle est née du cerveau monquin, ce qui aurait été une circonstance aggravante, lui inspire ceci. Drôle de musique tout de même, avec ses accents semi-wagnériens. Et il faut chercher, analyser, discuter, parce que c'est intriguant, au lieu d'être tout simplement satisfaisant. Donc la rénovation harmonique, mélodique du bop lui paraît en fait le signe d'une intention de complexité, et partout où il y a intention, il y a perte de contact avec la vie, donc dépérissement. C'est pour cela qu'elle relie, sous couvert de jeux de mots, l'une des marottes des boppeurs et des critiques progressistes qui les adoubent, les quintes diminuées, les intervalles altérés en général, eh bien elle assimile la quinte diminuée à un régime de sous-nutrition. Voici par exemple d'un thème enregistré de Kenny Dorham. On ne comprend rien à ce qu'il joue, mais peut-être que le monsieur qui a avalé son parapluie, c'est probablement Oder, comprendra, lui, parce que des choses diminuées et sous-alimentées, eh bien je vous assure qu'il y en a. En fait, c'est dans ces admirations que l'on découvre qu'il y a chez elle une forme de résistance au plaisir des choses élaborées, comme il existe chez d'autres une résistance au plaisir simple. Sur quelques phases d'Errol Garner, par exemple, auquel elle n'a visiblement pas été insensible du tout, elle note « À force d'entendre de si jolies choses, ne finira-t-on pas par regretter tout ce qui, dans le jazz, lui donnait sa carrure, le souffle, l'éclair trapu de la découverte inconsciente, la simplicité ? Même si l'idée paraît au premier abord saugrenue, le jazz est pour elle le nom de ce qui est beau pour d'autres raisons que ce qui est usuellement beau en musique. Il y a le beau musical et le beau jazzistique. Non seulement ils n'ont rien à voir, mais l'un risque chaque fois de nuire à l'autre. La coupure entre jazz et musique est explicite et reliée au critère de la race dans le commentaire que lui inspire le clarinettiste Hubert Rostin aux côtés de Django Reinhardt. Voilà ce qu'elle dit de Rostin. Ses idées sont plus musicales que jazz et son jeu manque de ces chaudes inflexions des musiciens noirs, bien que Rostin soit souvent plus habile qu'eux. Donc ce que l'on comprend tacitement, c'est que les blancs ont une évidente supériorité sur les noirs en matière de musique, alors que les noirs ont une évidente supériorité sur les blancs en matière de jazz. Et dans la bataille de valeurs qui s'engage à l'occasion du bebop, Madeleine Gauthier est résolument du côté du jazz. Donc il n'est pas interdit d'être musical, mais c'est le jazz qui doit primer, c'est-à-dire la fraîcheur et la simplicité qui doit primer sur la réflexion et l'intentionnalité. Puisque le jazz est pensé comme l'envers de la musique, le simple devient la vertu la plus difficilement accessible. Et cette vertu suprême est noire, comme on le comprend dans ses lignes sur Slim Gaillard. Tout cela semble facile, pas sérieux, Mais si l'on essaye d'en faire autant, on se trouve subitement devant un tel amoncellement de difficultés qu'on se met à réfléchir, et alors on mesure la précision et la fraîcheur d'un spectacle musical noir. En de rares occasions, le curseur entre jazz et musique parvient à trouver un équilibre si satisfaisant que la musique, si souvent pourrie d'intention et étouffée d'intellectualité, s'en trouve comme rendue à la vie par le filtre du jazz. Billy Kyle rejoint les règles éternelles et diverses de l'art musical à travers sa nature de musicien noir qui fait refleurir la vieille souche. Le jazz, donc, on le comprend, le jazz seul peut ramener à la vie une époque agonisante. Je vais essayer de conclure, mais j'ai prévu un peu trop large. J'essaye de raccourcir un petit peu, mais il y a en fait sous cette vision-là de Madeleine Gauthier, il y a un soubassement qu'on ne voit pas, mais que je voudrais quand même signaler. C'est que si pour Madeleine le jazz est, comme pour Hugues, l'envers de la musique, ce qui paraît un peu saugrenu, parce que pour nous le jazz est de la musique, si le jazz est présenté comme l'envers de la musique, c'est aussi parce qu'il y a un soubassement politique, idéologique à la réflexion de Madame Gauthier. Et ce soubassement politique, il a une attache religieuse. Madame Gauthier, comme Hugues Panassier, est une catholique, on ne dit pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, d'une façon anachronique, on dirait intégriste, une catholique vraiment radicale, militante, nostalgique de la France fille aînée de l'Église, royaliste, antidémocrate, etc. Et donc, pour elle, le vrai musicien de jazz est l'incarnation la plus vivante parce que il incarne la vision politique de Madeleine Gauthier, c'est-à-dire le musicien de jazz est un homme qui ne s'appartient pas, un homme qui n'a pas l'outrecuidance typiquement moderne, humaniste et athée, de choisir lui-même ce qu'il entend chanter, mais qui laisse chanter en lui ce qu'il a de plus profond. Le musicien de jazz n'est qu'un reflet, un truchement, un relais de quelque chose qu'il dépasse. Dans une critique sur Indice de Baby Dodds, il dit « C'est un bain à la source, une réserve de puissance mise à découvert. Baby Dodds traduit, fidèle et sage, tout ce qui chante au plus profond de lui. Il est qu'une courroie de transmission de l'homme qui a su rester l'homme spirituel, qui est le seul homme vivant possible pour Madeleine Gauthier comme pour Panassier. » Je finirai là-dessus. Dans un disque sur Louis Jordan, qu'elle l'adore, elle dit « Les jeunes musiciens pourraient en fait de slogan prendre ces paroles que chante Louis Jordan, « Take me right back to the track, Jack. Remets-moi sur la bonne piste, mon vieux. » Je trouve particulièrement significatif que Madeleine Gauthier écrive non pas les paroles, comme on s'y attendrait, mais la parole, comme si elle était de Dieu ou d'Évangile. Et c'est une façon de dire que le jazz, pour elle, est la musique qui nous remet dans le droit chemin. Ce droit chemin où l'homme est encore un homme innocent et spirituel, et naïvement spirituel. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long. Merci.
Les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui, état des lieux, perspectives de recherche. C'était une journée d'études proposée par le laboratoire ICD, Interaction culturelle et discursive de l'Université de Tours. Cette journée était organisée par Vincent Cotreau, département de musique et de musicologie, et modérée par Hélène Morel-Indard. Nous remercions Vincent Cotreau, Madame Pémira et l'ensemble des invités qui nous ont permis de rediffuser les enregistrements de cette journée d'études réalisée par Jean Horry du service audiovisuel du département de musique et de musicologie.